Tristan Dominici, c'est un génie.
Et c'est pas vrai, c'est pas vrai. Deux fois, ça, c'est pas vrai.
Chut. Les massues, il faut pacifier, elles pèsent pas moins de 500 grammes chacune. Et but.
Et troisième
et but d'Emmanuel Petit, qui marque à la dernière minute.
Pédalage et défonçage sont les mamelles du Tour de France, alors il se défonce car la ligne est encore loin.
Eh ben oui, nous sommes bien là, à l'heure cette semaine pour ma part. C'est le Café des Sports, aujourd'hui mardi 14 février 2012. Bien le bonjour auditeur, auditrice, bien le bonjour Damienski.
Hi.
Bonjour Gonzalo.
Ça va, ça va.
Alors, comment dire, aujourd'hui, on va trouver au programme de la chronique, on va retrouver du rugby, on va retrouver des sports locaux, on va retrouver du basket, et puis je pense que ce sera à peu près tout. Et puis peut-être un agenda, et on viendra sur un événement sportif qui aura lieu ce week-end chez nos voisins de VDR, Val-de-Reuil, Al-Jesse Owen, avec le duel attendu entre Christophe Lemaître et Jimmy Vico. Ça devrait envoyer du boudin sur 60 mètres.
Très bon, du boudin avec Vico.
Et bah tiens, au lieu de faire le malin, ça va être ton tour.
On n'est pas bien ?
Si.
Paisible. À la fraîche.
This is bad country.
Décontracté du gland.
L'homme sage est celui qui connaît ses limites exactes.
Et on bandera quand on aura envie de bander.
Oh, fait rire, moi.
Non, mais moi aussi. Un point.
Boudin Vico, c'est pas mal. Eh, la France, un pays de culture sportive. Faites-moi rire, tiens. La France, cinquième puissance économique du monde. Ouais, mais à condition qu'il fasse pas trop froid, trop chaud. Hein. Si la température demeure trop longtemps autour de moins 15, les trains ont du mal à avancer, les stades et les gymnases doivent se fermer. S'il fait trop chaud, plusieurs jours consécutifs, les vieux meurent. Alors samedi, Stade de France, notre écrin national, notre joyau du XXe siècle. Tu parles Charles, il est aussi efficient que le porte-avions de Gaulle, tiens. Bah, ce match de rugby France-Irlande est une véritable honte. Honte. Allez, 1. Notre superbe SDF ne possède même pas un système de chauffage intégré pour la pelouse. 2. Pourquoi avoir débâché à 19h pour une rencontre à 21h? Il faisait que moins 7, hein, soit dit. 3. Pourquoi ne pas avoir anticipé et proposé dès mercredi dernier d'avancer le match à 15h? Parce que quand même, 21e siècle, internet, des satellites et tout le tralala. Les prévisions météo sont assez fiables, hein, 72h à l'avance quand même. 4. Dès 19h30, le sort de cette rencontre était scellé, dit-on, dans la coulisse. Mais pour cause d'assurance et de remboursement, justement d'assurance, il fallait que les spectateurs entrent dans le stade. Ainsi, on était sûr qu'on ne les rembourserait pas. Parce que les spectateurs ne seront pas remboursés. Soit ils viennent, soit ils se démerdent pour vendre les places à des copains, à des voisins, etc., etc. 5. Et maintenant, fait quoi ? Report du match début mars ? Bah non, c'est pas possible, hein. Parce que pour deux raisons. 1. La Ligue nationale de rugby ne veut pas qu'il y ait une rencontre internationale ce jour-là, puisque ce jour-là, il y aura, enfin ce week-end-là, il y aura un tout petit Toulouse-Clermont, soit les trois quarts de l'équipe de France rassemblés. Et puis c'est pas possible un match vers le 2-3 mars, puisque l'IRB, lorsque la fédération française de rugby lui a demandé de ramasser le tournoi en 5 week-ends consécutifs, a dit non, pas possible. Pas plus de 2, il faut penser à la santé des rugbymen. Ça se saurait si les fédérations, les ligues pensaient à la santé de leurs athlètes. Ça, c'est un autre débat. Match en septembre alors ? Moi, je pose la question, mais quel intérêt ? Quel intérêt ? 7, heureusement que la France n'a pas hérité des JO, ou alors est-ce le contraire ? Il fallait un grand événement pour booster nos installations sportives. Allez, dimanche, en province, en Normandie. En bon papa poule, en bon papa bénévole, bah j'étais de voyage sur les routes départementales par moins 13. Objectif, pas 6 sur heure. Tournoi Poussin, de volley-ball. Il devait d'ailleurs se dérouler à Gaillon, mais prévenu le samedi matin, on nous dit non, on peut pas aller à Gaillon. La chaudière a rendu l'âme. D'accord, pour la sécurité des enfants et le confort des parents et des entraîneurs, il fallait se rendre à Passy. Passy, bien sûr, où il n'y avait pas de chauffage dimanche matin. Donc une matinée avec des gamins en t-shirt par 4 à 6 degrés. Ouais, il faisait 4 à 6 degrés dans la salle. Une salle parfaitement isolée où on voyait clairement le jour à l'extérieur autour des portes et des fenêtres. Magnifique. Mais on va à la capitale. Venez dans la capitale de l'heure. Dimanche après-midi, c'est carrément le pompon. Match de N3 à Jean Jaurès. Pas de chauffage non plus. Bah non, la chaudière, il n'y en avait plus. Température, voilà, parce que là, à l'extérieur, c'était un petit peu monté, quoi. Il faisait quoi, entre 6 et 8 degrés. Pas de chauffage donc pendant l'ensemble du match. Après 2-7, plus d'éclairage, plus d'électricité, puisqu'il y a un tuyau, une canalisation qui a rendu l'âme juste au-dessus, enfin, qui a explosé juste au-dessus du compteur et l'eau se déversait sur le compteur électrique. Alors, il y a des spectateurs qui ont tiré des rideaux pour qu'il y ait un peu plus de jour. Rideaux qui n'avaient jamais été tirés depuis, je crois, la construction de la salle. Ça fait quoi? La France, un pays de sportifs? Ouais, laissez-moi rien.
On va pas revenir sur ce débat éternel. Ça tombe. Je crois que t'es les auditeurs qui réagissent sur le chat déjà. À l'écoute de ta chronique doivent se réjouir parce qu'ils nous disaient il faut vraiment l'aimer le sport à Évreux parce que pas très aimable en ce moment les résultats, mais il n'y a pas que les résultats qui sont pas aimables, il y a aussi les conditions d'accueil pour le coup.
Et t'en avais une aussi pour le rugby, tu la gardes pour la...
Ouais, bah je la garde pour...
Il thésaurise l'animal.
Non, je la garde pour le rugby parce qu'elle ira fort à propos avec le rugby, mais les auditeurs qui peuvent aller chatter peuvent la lire en revanche. Musique, un morceau tout de suite, go.
Mais on va faire dans l'actualité.
Bah vas-y. Il fait froid.
Les Beach Boys.
Bah c'était quoi?
Les Beach Boys.
Ils passent à Évreux.
Le titre est un peu difficile pour mon anglais de 4e ou 5e. Wouldn't it be... Non, would, mais en négatif.
Wouldn't.
Wouldn't it be nice. Voilà.
Wouldn't be it nice. Je crois qu'on va parler des... Est-ce que vous avez vu des sports locaux cette semaine? Est-ce
oui,
qu'il y en a qui...
Il est froid.
Est-ce que Damienski, par hasard, tu ne serais pas rendu du côté de la déroute?
La déroute. Non, j'étais pas à la salle des sports.
T'es pas monté un moment avec.
Si, c'est vrai, j'ai vu 3 minutes. Ouais, j'ai vu 3 minutes de cette.
T'as vu quoi, les sifflets, la bronca.
Quatrième carton, effectivement, avec du grand n'importe quoi, du jeu personnel. Enfin, 3 minutes, c'est dur pour relater un game, mais ouais, non, c'est vrai que ça semblait très perso, pas du tout construit. Bon, il y avait déjà moins 20 au compteur, donc c'est vrai que. On part dans les conditions particulières, mais c'est vrai que le public n'était que peu satisfait.
Alors on parle de basket bien sûr, Pro B, ALM 54 anti 82, ouais, plutôt que de revenir, alors on a croisé des spectateurs qui étaient effectivement forts mais contents, et plutôt que d'aligner des chiffres, je vais me permettre de lire ce que racontait Monsieur Valin, le coach, après. Que disait-il ? La première chose que j'ai à dire, c'est que j'ai honte, honte de moi déjà. De mon équipe aussi, honte de ce qu'on a produit ce soir. C'est juste inadmissible. En 2 matchs, on prend 50 points à une équipe qui était encore 16e et premier non relégable avant cette rencontre. J'ai honte. Il précise ensuite, en tant que joueur ou comme entraîneur, je n'ai jamais vécu une telle inculture du jeu. Pas d'aide de l'aile. Pas de repli défensif, refus de tir ouvert. Personne pour mettre un taquet quand il faut, personne pour bousculer l'équipe et sonner la révolte. On accepte de se laisser passer, c'est honteux. Même Vichy ne perd pas des matchs comme ça. Nous, ça fait 3 à la maison après Denain et Aix-Maurienne. Alors là, ça me résonne.
Ça te rappelle quel
est... Ça me résonne, comme disait Sierra, ils ont laissé jouer en sifflant les Antibois. Et puis, il y a une bonne remarque de la Guinche qui dit « Voici la génération TPMG, tout pour ma gueule. » Voilà.
Alors... Moi, je vais, ou je sais pas trop, ou j'ai pas vu le match.
Déjà.
Je pense qu'il y a un meneur de jeu qui ne distribue pas beaucoup de ballons. Et c'est pas la première fois qu'on le dit et ça continuera. Puis après, il y a aussi des joueurs, je crois, qui, devant le mur, ils ont surtout pas pris leurs responsabilités. Il y en a un qui le dit clairement. Aujourd'hui, je crois que c'est dans Pourri Normandie, c'est ça. Guillaume Ponce qui dit je n'osais pas prendre les shoots, je donnais le ballon à mon copain. Donc c'est démerde-toi. Moi je veux pas être, je veux pas avoir des mauvais. Donc il a pris un shoot à 3 points dans le match.
C'est ça.
Donc c'est et lui ou au moins il le dit quoi. Déjà bon, on dira pas faute avouée, faute à moitié pardonnée, mais c'est un début, c'est un début.
Bah ce qui met quand même Évreux dans une position délicate hein, au classement puisque Évreux demeure 12e, Antibes est passé devant. Égalité de points avec Le Portel. Derrière, il y a du monde. Hein, Antibes, Denain. Que dis-je? Antibes est derrière avec 29. Ouais. Denain derrière. Enfin, que des équipes qui nous ont massacrés.
À la maison.
À la maison. Ah, ça fait mal. Ça fait mal au sein.
Mais allez, réjouis-toi un petit peu.
Lille 77, Rouen 69.
Voilà.
T'as le fil rouge ou pas? Parce que,
Je peux vous donner le fil rouge, exactement. Le Mézerelton. Donc, Mézeroy, on continue sa bonne série. 0 minute de jouer. Shell a joué 15 minutes, 0 points, moins 4 d'Eval.
C'est du positif.
Voilà.
Donc ce qui donne
tout va bien.
Rouen 16e avec l'un des plus gros budgets. Mais bon, là je crois que ça décollera plus. Hein. Ça va être difficile quand même de rejoindre les playoffs. Parce que pour les playoffs, c'est quoi? C'est 8 ou 12?
8. Les 8.
Pour les 8, il faut arriver à 32 points. Et pour l'instant, Rouen n'en a que 28. Bon. Pas trop loin non plus, c'était pas trop loin non plus. Basket toujours N3 masculine. Après une nouvelle défaite à domicile, les amicalistes ont réagi par une nouvelle victoire à Malakoff. D'ailleurs, il y a peut-être un petit syndrome d'ailleurs à domicile. Petit syndrome. Malakoff 61, ALM 69. À peu près le même scénario que le match aller, c'est-à-dire Évreux a mené pendant 35 minutes, se fait rattraper. Même passé devant à plus 1 pour Malakoff, 61-60, Évreux ferme la boutique, la défense 61-69, c'est-à-dire un 9-0 dans les 3 dernières minutes, ce qui permet quand même à Évreux de souffler puisque les résultats sont globalement positifs sur cette journée. Évreux était inquiété pour le maintien et là ça reprend un petit peu d'air, ce qui est pas plus mal. Malheureusement, les filles de Nétreville on prennent 40, 82 à 40 et des brouettes. Pour discuter avec Madame Lanoé, apparemment un contexte assez vilain. Les deux équipes étaient à peu près à égalité, coude à coude après le premier temps, quart temps. Et l'arbitrage a commencé à assaisonner les Hébroïciennes qui ont fini à 4 sur le terrain. Ah ouais. Ce qui n'est pas sympathique. Ce n'est pas sympathique, c'est pas très...
C'est pas sport.
C'est pas des conditions d'accueil. En deuxième division, Angers 32, SMV 26. Deuxième déplacement consécutif contre des collègues de milieu de tableau. Et deuxième défaite consécutive pour le SMV. Ce qui le bloque un peu en milieu de tableau à 7ème place. À égalité de points avec Semur en Auxois. Volleyball 3x3-0 égale 0.
La tête à 0.
Troisième défaite consécutive pour le VB. Alors bon, attendez, on va replacer ça. Elles ont joué, elles sont déplacées à Calais 5e. Elles ont reçu Béziers 3e. Elles se déplaçaient là chez Mulhouse 2e. Bon, c'est des gros, hein, c'est des cadors. Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce match-là?
2-7 accrochés, non?
Voilà, c'est qu'il y a eu 2-7 accrochés. Ça partait comme une cata quand même, hein, puisque ça fait 25-12. Et je crois qu'à un moment, il y avait 16-5. Donc là, ça commençait à partir en quenelle ou en quenouille.
Quenelle, c'est très bien.
Les quenelles, ouais, l'hiver, c'est pas mal avec un peu de béchamel et du jambon, c'est impeccable. Que dire? De toute façon, hein, c'est simple. Hein. Mulhouse, on va 2-3 chiffres comme ça. Mulhouse, 10 ace, Évreux, 6. Mulhouse, 12 contre, Évreux, 5. Efficacité offensive, Mulhouse, 54. Efficacité offensive, Hébroïcienne, 33. Ah, par contre, Évreux mène dans un secteur, c'est au nombre de fautes, 18 à 13. Bon, on peut pas gagner un match comme ça. Rappelons quand même que Évreux finit sur un 25-20 et un 25-22.
Ouais, voilà, les deux derniers sets.
Ce qui permet peut-être de se nettoyer la tête avant de
un match important voilà. Ce week-end. On va dire déterminant pour le maintien.
Déterminant. Totalement déterminant. À mon avis, c'est le match qu'il faut gagner pour le maintien. Parce que je ne pense pas qu'il y aura. Ça sera plus difficile à Terville et au Hainaut. Au Hainaut, d'ailleurs, qui a battu Calais, je crois. Et qui passe donc en 8e position. Donc ça se resserre. Ça se resserre. Il ne reste plus que 4 matchs dans les cordes. Et il ne faudra pas les rater. Pas raté, en revanche, c'est la victoire de la réserve de l'EVB qui a battu le deuxième 3-0, c'est vrai, dans un match un peu guet-apens pour les visiteurs, avec, donc on l'a dit, pas de chauffage. Une des joueuses majeures qui se fait une rupture de tendon d'Achille après le premier set, ce qui est pas drôle. Et fin de match sans loupiote. 3-0 quand même contre le deuxième. Évreux rebondit à la 7ème place. Les voisines, les joueuses du bord de Seine font plutôt un bon match. Chez le quatrième, à La Rochette, elles perdent malheureusement 3-0 et elles jouent aussi leur avenir la semaine prochaine contre Amiens Longo qui est juste devant elles. Voilà, il n'y avait pas de foot, il n'y avait pas de rugby, on s'en doute. Et puis ouais, le week-end prochain sera décisif pour pas mal de clubs du coin. Voilà, patron.
Eh ben, ça me va bien. Je crois que j'ai rien à ajouter. Si ce n'est le titre... En athlétisme, il y a deux performances locales. Il y a Mokhtar Benari du Val-de-Reuil AC qui a de nouveau gagné les pré-France de cross long. C'était en Bretagne. Et puis, il y a un nœud assiste qui changeait de catégorie, à savoir l'ami Christophe Grenet qui vient de passer vétéran. Et donc, il gagne les interrégionaux de cross. Camille Baudouin se qualifie également pour de l'EAC, se qualifie également pour les championnats de France. À suivre dans 15 jours, je crois, du côté... un trou. Eh ben, c'est pas grave. Voilà, il y a les France ici 15 jours. On reviendra sur l'athlétisme tout à l'heure avec le meeting de Val-de-Reuil. Mais on continue en musique.
Brenda Lee, I'm sorry. J'espère que le week-end prochain, nous ne le saurons pas trop.
I'm sorry, so sorry that I was such a fool. I didn't know sorry. So sorry. Please accept my apology. But love is blind, and I was too blind to see. Oh, 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 yes. You tell me mistakes are part of the error, but I don't write the wrong that's been done. Oh, 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 yes. I'm sorry. Sorry, please accept my apology. But love was blind, and I was too blind to see.
Pas ici tes mains, plus haut, plus haut. Non, pas ici tes mains. Non, plus haut, non, plus haut, s'il te plaît. Non.
Allez, c'était quoi,
Brendali, I'm sorry.
On a slové.
Pas autant que moi.
D'après vous, quelles vont être les consignes pour la seconde période, puisque vous êtes réduit quand même à 14 depuis le début du match?
Ouais, mais là, les consignes, ça va être simple. Il va falloir rentrer avec des tripes énormes. On va pas parler technico-tactique, on va aller les troncher, puis voilà. Il y a des matchs où c'est... on est 14, ils sont 15, on va y aller avec une grosse paire, comme on dit.
Tu veux parler de basket, de volley, de quoi tu veux parler là? Parce qu'on sait plus là.
Alors, eh ben si, je pense que ce jingle fait référence aux trois matchs du tournoi destination du week-end, à savoir, nous on va plutôt parler de tactico-tactique par rapport à, parce qu'on a que ça à faire sur France-Irlande. On va parler d'une bonne paire concernant les Rital, et puis on est réduit à 14 puis 13, on pourrait parler des Écossais. C'est le résumé du week-end.
Oh, il a bossé son enchaînement.
Oh, je l'ai bossé là, ouais. Ça m'a fait penser à ça. Juste pour revenir quand même sur le chat, parce qu'on vous a signalé qu'on avait déjà parlé de rugby. Et ouais, ça a été compliqué pour nous, et ça tombe bien avec la Saint-Valentin, le message est dans le thème. Et oui, les amoureux de l'Ovalie, à peine des préliminaires, j'ai pas l'habitude.
Mettez pas des mots compliqués comme ça.
Pas plus de trois syllabes, un petit bisou sur la joue et bonne nuit. Et ouais, c'est le résumé de France-Irlande. Moi, j'étais déçu d'une chose, c'est quand la caméra est passée dans les vestiaires, que l'arbitre a annoncé le off aux joueurs. It's off. C'est la détresse.
On nous a dit pas de franglais.
Ouais. C'est la détresse de Swarzewski, 55 caps, 2 comme titulaire. Pour une fois, il commençait le match à la place de William Servat. Voilà, où j'ai cru lire dans ses yeux un peu de déception tout de même. Donc on va pas épiloguer sur cette ingérence du froid à tous les niveaux. Moi j'ai juste déjà que les Irlandais nous aimaient pas après Thierry Henry qui a marqué 3 buts sur la totalité de ses sélections, pour revenir au pari lancé par Damienski, dont 2 décisifs. Il n'aura pas marqué, c'est combien t'avais dit de buts? 8?
Ouais, 3 seulement, ouais.
3 seulement.
Alors c'est 8. Pas sélection hein, c'est avec Arsenal.
Ouais, voilà. Mais par contre voilà, Thierry, il nous aimait déjà pas à cause de Thierry Henry, et je crois qu'on s'est fait 8000 ennemis de plus là-bas du côté des rugbyman, parce que on va pas parler de la crise financière qui traverse l'Europe, le tigre celte, les événements en Grèce de ces derniers jours, mais nos amis irlandais ne sont pas beaucoup mieux lotis, on en parle un peu moins. Venir en France a un coût, sachant que quand ils essayent de venir, c'est pour bien vivre. Ils sont pas radins sur la consommation. Et du coup, il y en a 8000, je pense, qui ne sont pas prêts de remettre un pied de ce côté de la Manche. Voilà.
Surtout que si on boit 3 Guinness à côté du Stade de France, ça vaut quand même une fortune personnelle. Hein.
Ah bah pour eux, ouais.
Non, puis,
non bah même pour nous,
ouais. Ah bah pour nous aussi, oui.
C'est bien sûr ce que je n'aurais souhaité en aucun cas. Mais encore une fois, mes respects à ce public rugbyistique, puisque mine de rien, ça aurait été un choc du sommet du championnat de France de football ou une rencontre décisive dans un d'ailleurs de nation de football. Je suis pas sûr qu'il y aurait eu la même, comment dire, mis à part des griefs verbaux. La même attitude au sortir du stade.
Ouais, je pense que le stade de France était détruit, je pense.
Ah bah, il est embrasé.
Un petit Allemagne-Hollande.
Ouais, voilà. Non, mais même, oui, mais je veux dire, même un France-Angleterre football ou autre, je veux dire.
Je pense que le stade, il peut être ravagé en partie.
Oui,
non,
mais c'est sûr et certain. C'est sûr et certain.
Alors, on va parler de rugby. Pendant que nous, on ne jouait pas, les Italiens jouaient sur un stade verglacé. Déjà, la première chose, c'est de noter que c'était au stade olympique de Rome. C'est quand même une nouveauté pour eux de jouer devant autant de spectateurs en Italie un match de rugby, ce qui est plutôt bien pour le développement du rugby de ce côté-là des Alpes.
Ça grimpe doucement, c'est bien ça. Ça, je pense que Brunel, ouais, il va allumer une petite flamme là-bas.
Il a déjà sorti quelques petits jeunes. Je crois qu'il a marqué des points en chantant l'hymne italien dès le premier match. Voilà. Il est dans la fibre, il est sur l'affectif, le cœur. Je pense que c'est des choses qui leur parlent aussi au Rital, plus que les anglo-saxons avec leur rigidité et leur truc très, trop cartésien, je pense, par moment.
Puis surtout, il y a toute une génération de joueurs, les Paris et compagnie, ils en ont marre de prendre des tôles à chaque match et ils ont vu que ça tourne un peu. Ouais, je pense que là, ça, une ou deux saisons et ça va venir.
Alors voilà, on revient donc aux Italiens. Et bah, ils ont perdu 15-19 dans un match de bonne facture, de bon niveau pour eux. Avec du mouvement, j'ai trouvé, ou de, les quelques extraits, j'ai vu qu'il y avait davantage de mouvement. Et pour preuve, deux essais inscrits et pas deux essais. Voilà. Ça, c'est la première chose. Par contre, et ben voilà, ils ne sont pas encore au top niveau parce qu'ils doivent laisser 14 points au pied. Quand on perd de 4 points, ça fait beaucoup. Et les Anglais, bah, c'est pas.
Surtout que quand l'essai que tu prends, je me permets, c'est sur un, je crois que vous appelez ça un renvoi au pied, un dégagement au pied.
Un coup de pied contré.
Voilà, coup de pied contré, malheureux. Bon, bah, ça arrive, le pauvre, je sais pas quel est son nom. Et je pense qu'il en avait gros sur la patate parce que c'est ça qui ramène, qui relance l'Angleterre.
Voilà, donc, voilà. Bien pour le tournoi, bien pour l'Italie, ça monte. Et le deuxième aspect, c'est, le deuxième match, c'est les Gallois. Qui recevaient au Millennium les Écossais, et ben ils ont eu du mal. Et comme quoi, le rugby c'est vraiment un sport de combat, un sport de franchissement. Les Écossais ont tenu le ballon pendant une mi-temps sans réussir à concrétiser. Et puis au retour à la mi-temps, au retour des oranges.
L'Écosse c'est le même problème que l'Italie. Hein. Il y a des problèmes de franchissement, de percussion, ils ont du mal. Du mal sur le gagne-terrain quand même.
Voilà, ils ont au niveau du centre du terrain, on va dire. Au rugby, il faut prendre ce centre du terrain, c'est une notion importante. Hein. Les Blacks, quand ils te mettent Nonou et Sonny B. Williams au centre, c'est pas pour faire des schistera et des passes, hein, c'est pour te rentrer dans la courge et puis gagner des mètres. Hein. Bastaro, quand il a joué en équipe de France, on l'a pas fait jouer pour ses passes sautées de 25 mètres. Hein. C'est sa capacité à faire venir les défenseurs vers lui. Pour libérer des espaces. Et les Écossais, ils ont ce gros problème. Et au final, au retour des oranges, ils ont explosé. Ils ont eu une absence de 20 minutes où ils prennent deux cartons sur des fautes. C'est dur comme carton, mais c'est justifié. S'ils font pas la faute, il y a les essais derrière. S'ils ne trichent pas, il y a essai. Et c'est la sanction. C'est soit essai de pénalité, soit carton. Bon, l'arbitre, il fait un choix. C'est plusieurs fautes répétées. Voilà. Donc, et puis après, ils ont remis la main sur le ballon en fin de match, réussissant à marquer un essai par le petit Hogg, ouais. Qui a fait une boulette en commettant un en avant.
En avant d'ailleurs, dont je suis pas sûr de la chose.
Il y a en avant.
Ah oui, jugement, pardon. Oui.
Voilà, il y a en avant. Peut-être qu'il n'y avait pas. Il y a peut-être
et avec Ledlow là. C'est de la famille de l'autre Ledlow là.
Je sais pas.
Qui nous a emballé il y a une quinzaine d'années.
Est-ce que c'est le numéro 22? Est-ce que c'est le l'ailier?
Ouais.
Ah mais moi je l'ai trouvé plutôt percutant.
Ouais. Percutant pense... virevoltant.
Virevoltant.
Pas
pardon,
très percutant.
Pardon. Virevoltant. Je pense que c'est un joueur sur lequel il faudra compter. Moi j'assistais à cette rencontre. J'étais resté un petit peu. J'avais loupé le Pays de Galles Irlande. J'avais très envie de voir les Gallois et vous m'aviez donné l'eau à la bouche la semaine passée. Et du coup j'ai été très déçu par cette première mi-temps. Qui était très physique, très engagé, mais où on n'a pas forcément vu de belles choses. Et effectivement, une seconde mi-temps qui était beaucoup plus enjouée. Et sincèrement, je l'ai trouvé plutôt pas mal du tout, ce jeune joueur.
J'ai une question, j'ai pas vu le match, j'ai une question, mais est-ce que finalement, c'est pas la bonne tactique contre les Écossais, c'est-à-dire d'imposer une épreuve de force pendant une demi-heure au début, pour justement profiter d'une baisse physique par la suite.
Laisser le ballon, c'est plus fatigant d'attaquer que de défendre. Ça paraît bête à dire, mais en rugby, si t'es un poil plus fort, c'est plus facile de défendre. On voit bien les mecs comment ils sont cramés après des séquences de jeu à 10, 11, 12, 13 blocages. La défense, ça se réorganise, elle reste en miroir, elle avance, elle plaque, ça fait un tas. Les mecs qui doivent remettre du mouvement, recréer quelque chose, se redéployer, et ça fatigue.
Là, il y a eu un essai avorté à quelques centimètres de la ligne après 22 passes.
Ouais, c'est ça.
Pas mal quand même.
22 phases.
22 phases, pardon.
22 phases. Ouais, mais.
Non, mais très honnête.
Pour gagner 10 mètres, il faut 22 temps de jeu, quoi. C'est fatigant. C'est beaucoup de concentration, beaucoup de.
Et là, tu fais l'en avant et tes copains, ils sont. Mais
il y en a eu plusieurs. Ils ont fait plusieurs fois en avant, hein, comme ça.
Mais je pense que le score reflète absolument pas la physionomie de la rencontre parce que sincèrement l'Écosse avait le ballon en main en première mi-temps et était à pas grand chose. Moi, voilà, c'est un fait, ils ne l'ont pas marqué, pas franchi les lignes. Il n'était pas grand chose à marquer et à prendre la tête au virage.
Ça reflète complètement l'écart entre les deux équipes.
Par contre, oui.
Par contre, il y a des joueurs en flasque. Faletao, là, il a fait un grand match sur le franchissement, les centres.
Donc, même si cette année il n'y aura pas de tournoi de classement général, puisqu'il n'y aura pas de match français contre l'Irlande, malgré tout, Gall veut son chelem.
Gall, c'est l'année pour le chelem avec une finale annoncée au Millennium contre les Français. Peut-être. C'est l'année du grand chelem aussi, potentiel pour les Français.
Comme disait un grand chanteur, ah si j'étais riche.
Ah oui, on y serait. Et oui. Alors, juste pendant ce temps-là, ça joue en top 14.
Ah, j'ai vu, moi.
Ah, voilà. T'as vu quel match?
J'en ai vu deux. J'ai vu Biarritz-Toulouse.
Ouais.
Grande maîtrise toulousaine. Ils ont été. Ça chicorait quand même. Hein. C'était accroché.
Bah, le BO joue son maintien, on le rappelle hein, quand même. Donc,
ils jouent leur maintien, mais qu'est-ce que c'est fort, Toulouse, sur les ballons de récupération. Il y a un essai de Yves Donghi qui a pris 24 kilos de muscles sur le haut. Visiblement, il a dû être pété pendant un an en bas. Parce qu'il a bouffé de la barre sur le haut. Puis McAllister en centre à côté de Yann David. Doucin en 10. Et puis le demi de mêlée Sudaf qui est très très bon. Hein. Très très bon, je ne me souviens plus son nom. Non, ça joue, c'est magnifique. C'est superbe.
Donc victoire toulousaine, 15-20.
Ouais.
Ton deuxième match.
Pas de chance aussi, pardon, je reviens sur Biarritz où quand même Perlong prend un petit chaos technique. Pas de chance.
Ça fait du mal à un mec comme ça. Ils sont dans la mauvaise spirale. C'est
et
la
puis,
mauvaise
voilà,
saison. Hein.
On sent que voilà, le 9 qui dégage, il glisse, il tombe, enfin machin, en reprise le ballon qui est mal dégagé. Ça tombe sur un avant qui voulait pas le jouer, mais ça lui tombe dessus, fatalement pénalité. Des ballons comme ça, quoi, des merdes comme ça. Et deuxième match, Bayonne. Stade français, et franchement, très franchement, les Bayonnais qui viennent pas pleurer, quoi. Parce que là, Michael Cheka d'ailleurs a pété un boulon.
Ah.
Puisque après arbitrage vidéo, la question de monsieur Massiello était vicieuse. Il demande à son juge de Téloche, y a-t-il une raison de ne pas accorder cet essai? Alors que franchement, à la vidéo, ils l'ont montré sous tous les angles, on voyait que dalle. Donc Cheka a pété un boulon et quand tu perds 2-3-4 points et qu'on t'accorde 7 points pour les autres.
Puis t'orientes la question là.
Voilà, ouais. Et puis, où au final ça remet Bayonne en non relégable. Ça sort le Stade français des 6 premiers pour les phases finales. Donc il y a quand même beaucoup d'enjeux. Toulon qui explose Bordeaux-Bègles, qui avait fait l'impasse sur ce match là, à mon avis.
Avec finir sur un truc parce que le Stade français a passé un cap parce qu'ils étaient assez dépendants du rayonnement de Dupuis contre Pomy. Là ils ont joué avec Keller de retour de la maison de retraite.
Bah contraint et forcé.
Ouais mais il avait plutôt envie et puis je crois que ça lui fait du bien aussi le placard, il a vu la fin de carrière et là on lui laisse la porte ouverte, il a foncé et puis il y avait en 10 je sais plus qui mais ça c'est ils étaient plutôt bien.
Ça doit être un petit jeune de mémoire, je me rappelle plus son nom mais ça doit être un jeune français.
Et voilà quoi.
Et dernier résultat important, Montpellier qui se replace bien dans les 4 premiers, ils ont explosé dans le jeu, 22-11 Perpignan qui est pas bien en point plus que jamais, ils se remettent toujours pas du départ de Delmas, ça va être le départ de Brunel qui avait été remplacé par Delmas et puis le dernier résultat, Clermont qui archidomine le Metro Racing 31-13 Lorenzetti est toujours solidaire de Pierre Berbizier, mais il a entre-temps quand même viré son frère Berbizier. Il reste manager général du club. Je sais pas trop comment ça va
c'est
évoluer.
C'est un beau thème, ça. un beau thème de débat. Est-ce qu'un président doit céder aux joueurs ou conserver son entraîneur? C'est un beau thème de débat.
La question, elle est rapide. Tes joueurs, il y a à peu près 1,5 tonne de physique et 1 kilo de muscle. Et puis ton entraîneur, en l'occurrence Berbizier, il fait 1m3. Franchement, à un moment donné, il y a ta vie qui rentre en compte.
Et allez,
pardon. Moi, je sais pas.
Non, parce c'était que... décalé, non, je sais pas.
C'est vraiment une question intéressante. Je sais que plusieurs fois, le Stade français, oui. Guazzini avait pris le parti de ses joueurs.
Oui.
Choix qui ont été récompensés deux fois.
Ils ont gagné sans entraîneur.
Connolly et
Connolly.
Deux fois, il a fait le choix des joueurs. Mais d'un autre côté, est-ce que ça l'a pas amené dans une impasse quand cette génération-là est partie et que le Stade a plongé? C'est difficile, difficile.
Le problème, il est que à l'époque, tu avais peut-être des joueurs suffisamment armés intellectuellement et suffisamment
investis
dans leur vie de groupe. Maintenant, avec la génération dorée, on va dire les vrais pros,
les TPMG.
Ouais, voilà. Et ben, je suis pas persuadé que tu y arrives.
C'est pas mal ça, TPMG.
Ouais, c'est pas mal. Et dernière info rugby, parce qu'il faut clore. C'était quoi, Damien?
Non, pas du tout. Ouais, c'était. Je corrobore les propos. C'est juste qu'à un moment donné, si t'as l'ensemble de ton effectif qui est en marge et qui contrôle ton entraîneur, bah voilà, il y a pas. Enfin voilà, je pense qu'à un moment donné, si c'est l'ensemble de l'effectif, tu y a pas photo quoi. Si c'est une partie du vestiaire, ça peut être encore rattrapable selon moi. Quand c'est l'ensemble de ton équipe, malheureusement, bah il y a pas à jouer quoi.
Allez, dernière info rugby. William Servat n'ira pas au RC Toulon. Il avait plus ou moins signé un pré-contrat. Au final, il restera au Stade Toulousain pour remplacer Yannick Bru comme entraîneur suite au... Jean Bouillou a décliné l'offre de Guy Novest, donc le troisième ligne avec la petite mèche blanche qui est ingénieur de son état. Et Laurent Traverse, l'entraîneur du Castres Olympique, a également... Donc ça reste dans la tradition. On met en place des anciens joueurs formés au Stade Toulousain. On rappelle, classe. William Servat arrivé en 1994 au Stade Toulousain en cadet.
Pas mal aussi Travers, qui forme un binôme avec la Bite, avec la Crampe comme joueur, on le rappelle, à l'aile, qui a décidé, parce que c'est quand même difficile de refuser un poste dans le meilleur club d'Europe.
Du monde.
Ou du monde, oui, on peut le dire.
Parce que les autres, c'est pas des clubs.
Ouais. Dans le meilleur club du monde, on te propose un poste d'entraîneur d'avance, c'est-à-dire un paquet de rêves. Et tu dis non, je reste avec mon pote à Castres. Moi, je trouve ça...
C'est tout à son honneur.
C'est classieux.
Allez, il est très...
Ce qui va donner...
Ou je me permets, super renchérir, con.
Ce qui va renchérir la valeur de cette paire-là, d'ailleurs.
Il est 13h08, vous êtes toujours au Café des Sports. Et ben musique, et puis on se retrouvera après. Go.
Bah, ça a coupé plus court que
c'était
prévu.
Quoi?
Pourquoi ça me laisse 40 secondes? C'était Air, Dead Bodies.
Très bien, très bien. Eh ben allez, on va attaquer tout de suite avec ça. C'est l'heure. T'es il devrait arriver. Oui, oui, c'est ça. C'est
ah oui.
Mais oui, tu sais bien, ça met du temps à arriver.
Ah, pardon.
Allez,
on y est.
Damien, ce qui c'est à toi, c'est quoi les résultats de la nuit? Autant la semaine dernière, j'étais calé avec Batum, et puis autant là, je sais absolument rien.
2-3 résultats, 2-3 stats, et surtout, on reviendra sur les infos dans le, concernant l'All-Star Game. Dallas qui s'impose face aux Clippers, hein, c'est une saison incroyable. Dallas qui était mal en point, qui se refait la cerise, 96-92. Golden State Warriors, une de mes deux équipes surprises, hein, je noterai avec Denver, qui bat Phoenix 102-96. Milwaukee qui à domicile perd face à Miami, il les avait battus deux fois précédemment. Miami avait perdu deux fois contre Milwaukee, ils se vengent entre guillemets, 114-96. Charlotte qui n'en finit pas de perdre, 89 face à Philadelphia, 98. Orlando 102-89 face à Minnesota, c'était le duel de Superman face à Kevin Love, et match un peu bouffé des deux intérieurs, mais en tout cas voilà, Orlando qui s'impose et c'est bien l'essentiel. Et la Nouvelle-Orléans qui s'impose face à Utah, 86-80.
Kevin Love qui est pas très love, hein, d'ailleurs.
Why?
Parce qu'il a pris une suspension pour avoir marché sur le ses adversaires quand même.
Bah,
marcher sur le visage, au basket, c'est pas simple.
Oh, il avait qu'à pas se mettre par terre devant ses pieds aussi.
Kevin Love, il est un peu hard. Du coup, au classement dans la Eastern Conference, bah, ça donne Chicago 23 victoires, 7 défaites devant Miami 22 victoires, 7 défaites devant Philadelphie. Une des autres équipes surprises peut-être, 20 victoires, 9 défaites. Et Atlanta 18-10. Qui ferme la boucle de ce côté-là? C'est Washington, 6 victoires, 22 défaites. Et Charlotte, 3 victoires, 25 défaites. De l'autre côté, dans la Western Conference, Oklahoma City qui maîtrise et qui domine les débats avec 21 victoires et 6 défaites devant San Antonio 19-9, devant les Clippers 17-9 et devant Dallas 18-11. Et en fin de peloton, bah Sacramento, c'est pas si ridicule que ça. C'est pour ça que dans la Western Conference, c'est plutôt équilibré. C'est 10 victoires et 17 défaites. Et par contre, la Nouvelle-Orléans, 5 victoires, 23 défaites. 2-3 statistiques individuelles pour savoir que c'est toujours Kobe Bryant qui est leader à la marque. 29,3 points devant LeBron James et Kevin Durant.
Avec un 33e panier de la gagne samedi contre Toronto.
Tout à fait. Bien dit, bien fait. Dwight Howard au rebond, 15,2 prises devant Kevin Love.
Jordan n'avait fait que 24.
Ah, ça je ne le savais point. Steve Nash.
Comme quoi, c'est un joueur qui compte quand même.
Bah Kobe Bryant depuis toujours. Enfin, moi, c'est pas moi qui aurais dit le contraire.
Non, mais on dit toujours c'est un gros scoreur, mais aussi il sait aussi être scoreur dans les moments clés.
Oh, moi, je pense que c'est un surtout killer. Un des plus grands joueurs de l'histoire de la NBA. Hein. Ouais. Steve Nash, Rajon Rondo, c'est à la main. Et puis, bah tiens, sachez que pour anecdote, c'est Mike Conley, un joueur de Memphis, donc des Grizzlies, qui est le meilleur intercepteur de la ligue NBA avec 2,42 interceptions par match. Voilà. Alors, je vous avais déjà abordé un petit peu Jeremy Lin, ce joueur surprenant, un incredible player de ce début de saison, plutôt de ses dernières rencontres. Bah, ça n'arrête pas. Outre-Atlantique, il y a un morceau de rap qui est sorti, qui a son effigie. Tout le monde y fait le gros buzz, parce que quand même, il rentre 5 fois titulaire pour New York, et c'est 5 victoires. Alors qu'on est d'accord, Gonzalo, c'est du grand n'importe quoi la gestion de New York, que c'est Amar Stoudemire et Carmelo Anthony qui n'ont pas forcément un impact conséquent, qui sont soi-disant les leaders à la marque.
C'est Carmelo Anthony le problème, hein. C'est pas Amar Stoudemire. Hein,
d'ailleurs, ouais, c'est sûrement plus Carmelo Anthony, ce joueur à l'ego surmentionné, et peut-être aussi d'ailleurs aux qualités surdimensionnées, parce que je pense pas que ce soit le franchise player tant évoqué depuis de nombreuses saisons. Bref, ils jouaient pas les deux. Et bah malgré tout, c'est New York 5 fois titulaire Jeremy Lin, c'est 5 victoires. Bon, il a été bien sûr secondé par d'autres joueurs de son effectif.
Plus de 25 points de moyenne aussi.
Bah, en 5 matchs. Un 38 points face aux Lakers quand même.
Lakers d'ailleurs qui seront jamais champions avec l'équipe actuelle, puisque contre New York en meneur, ils en prennent 38. Et le lendemain, contre Toronto, José Calderón, très bon joueur.
Très bon joueur.
Très bon joueur. Leur en met 28, ouais. 30, pardon.
Alors justement, les Lakers ont mis à l'essai là, depuis 2-3 jours, Gilbert Arenas.
Dit l'agent zéro, dit le flingueur.
Ouais.
Dit le joueur de poker.
Qui a tourné quand même pendant 3 saisons à plus de 25 pions à Washington. C'est quand même dommage qu'il lui arrive. Bon, après, il y a aussi des gros soucis physiques. Donc, à voir. Peut-être qu'ils vont le signer. Et dans sa tête, bien sûr. Donc tout ça pour dire que Jeremy Lin, en tout cas, il fait le gros buzz hein, outre-Atlantique. Je vous en avais parlé il y a 15 jours, un petit peu la semaine dernière. Et bah voilà, c'est le mec qui fait le buzz actuellement. outre-Atlantique. Et puis bah il y a une autre chose hein, qui fait le buzz, c'est bien sûr le All-Star Game. Et d'ailleurs j'ai des surprises. Juste évoquer quand même les 5 majeurs. Alors 5 majeurs, vous rappelez, c'est les votes hein, des votants. C'est ça qu'on dit?
Oui. Il y a Yao Ming cette année ou pas?
Non. Non bah, c'est ça. Ça aurait pu être rigolo. C'est vrai qu'il battait tous les records. Alors dans la Eastern Conference, il faut savoir qu'il y a quand même 2 joueurs des Heat. Alors bien sûr LeBron James et Dwayne Wade, qui a à la main Derrick Rose, qu'il y a bien sûr Dwight Howard et justement Carmelo Anthony. Voilà, surcoté ou pas?
Carrément.
On est d'accord.
Et c'est bien, vous êtes d'accord pour une fois.
Ouais, bah, en suppléant. Et c'est là où, par contre, on va être un petit peu plus surpris. Je vais peut-être poser une colle, mais je crois pas, à notre ami Gonzalo. Donc on a Chris Bosh, donc un troisième Heat. On a Deng, qui est un joueur, si je ne m'abuse, d'origine anglaise.
Enfin, il est soudanaise, soudan. Il vient du Soudan, naturalisé anglais. Oui.
Voilà, il joue pour la sélection britannique. Donc le Holdeng, c'est plutôt une bonne chose. Iguodala, c'est normal, le Sixer. Joe Johnson aussi. Paul Pierce et Derrick Williams. Et par contre, et la grosse surprise,
Derrick Williams quand même. Hein.
Ouais. Non, que dis-je?
Derrick Williams, c'est un petit jeune. C'est
non, comment ça. Il s'appelle notre ami Williams des Nets, le meneur?
Deron,
merci. Et par contre, une grosse surprise, c'est Hibbert. D'où vient ce joueur? Qui est ce joueur? Un pivot.
Hibbert.
Ouais, Hibbert. Salut Raoul. Peut-être que Raoul y sait.
C'est Raoul qui Hibbert, Raoul?
Ah non, Indiana, non. C'est
bien raison, joué. Bien joué.
Un futur grand joueur. D'ailleurs, il est grand d'ailleurs.
Et première sélection All-Star Game, pour moi, un peu une surprise. Voilà, je le découvre. Du côté de la Western Conference, c'est Los Angeles qui ravive tous les votes, puisque 2 Lakers et 2 Clippers. On parle bien sûr de Kobe Bryant et de Andrew Bynum. Mine de rien, c'est pas Paul Gasol qui y est cette année. Et des côtés des Clippers, c'est bien sûr Blake Griffin et Chris Paul. Et bien sûr, Kevin Durant. Du côté des remplaçants...
Bah, franchement, pardon, je te coupe.
Je t'en prie.
Il a des grosses qualités de rebondeur, de défenseur, etc. Mais il a un peu les mains... S'il se matche pas, il a pas de geste, Bynum.
Oui, mais c'est surprenant. C'est surprenant, cette position.
C'est Monclar qui disait ça pour le niveau d'un All-Star.
Moi aussi, je partage cet avis.
La côte ouest est très faible.
Alors, ce qui est surprenant, c'est que, comme je disais, il n'y a pas Pau Gasol, mais il y a le frangin qui va signer aussi une sélection All-Star Game. Marc Gasol, un vrai gros travailleur.
Là, il devrait être titulaire.
Bah, il est remplaçant, en l'occurrence.
Non, titulaire, c'est la hype peut-être qui détermine
pas.
Ça. Donc.
Ouais. Il est pas assez fashion, hype, effectivement.
Il est grizzly. Hein.
Aldridge de Portland, mérité, on est d'accord. Ça, c'est les votes. On rappelle que ce sont les votes des coachs, hein, le bantouche. Kevin Love, Steve Nash, Nowitzki, Westbrook et Parker. Voilà, Tony Parker qui signe sa quatrième.
Ils ont combien, 4 meneurs?
Ah, il y a 16 meneurs, ouais, j'avoue. Par contre, à l'intérieur, c'est quand même plus léger. Voilà. Qui est dit, donc voilà, concernant les joueurs du All-Star Game, très cher Brandon.
Eh ben, on clôt cette rubrique NBA en saluant bien bas l'ami Bruno, qui salue de son côté l'ami Raoul. Et puis, on enchaîne en musique.
Le feu de cheminée était très bien.
On enchaîne avec un groupe qui sera sur Évreux. Ce jeudi, on y reviendra après avoir écouté grosse semaine de concerts sur Évreux du côté de l'abordage. Drowned in a pillow of tears. Got a well-known story.
tasted your grace, placed it back on the shelf. Drag your pedigree wives to your tomb. Oh Lord, your pedigree wives to your tomb. Well, I came from this city, the victim of peace. But I've grown far too filthy to attend to the feast. So I'll take to the hills to live savage and free.
Eh ben c'était bien ça. Hein. Ce sera bien hein, jeudi.
Jeudi, les nuits de l'alligator à l'abordage avec notamment Two Gallants, ce duo américain. Et puis vendredi soir, on enchaînera avec l'énergie électrique de The Subways. Et samedi...
Et une première partie régionale. Hein,
ah, je ne savais...
Les Dead Rock Machine quand même. Hein.
Ah oui.
Et ce matin, j'énonçais peut-être que dans quelques années, ce sera l'inverse. Et les Dead Rock seront en tête d'affiche et les Subways en première, on sait jamais.
Et puis samedi pour finir,
pour ceux qui en ont,
pour ceux qui seront énervés, The Men, c'est décrit comme du, on va le dire,
musique d'homme quoi.
C'est ouais, ça du crot, du crot punk,
du crot punk,
ouais, c'est vrai.
Crotte,
crotte, voilà,
crot punk.
Mais je trouvais que c'était plus joli. Allez, pendant qu'on parle de ce qui se fait localement, deux petites annonces pour d'abord ceux les habitués du Café des Sports. Peut-être qu'ils se reconnaîtront dans ce débat ou cette conférence animée par Jean-Marie Brome. Peut-être que Raoul nous expliquera plus un petit peu qui c'est. Ça aura lieu vendredi 17 dans le cadre de l'Université Populaire d'Evreux.
Généralement, c'est l'après-midi vers 15 ou 16 heures. Il faut se renseigner auprès de l'université.
Voilà. Le thème, c'est « Le sport mondialement organisé a engendré un nouveau rapport original, inédit et inconnu entre les hommes et entre ceux-ci et leurs institutions. Il est la grande centrifugeuse de notre époque, car il malaxe une grande quantité d'idéologies venues de tous les pays sur toute la planète pour en extraire un jus idéologique nouveau.
Bah, vous avez compris, c'est un sociologue Casburn qui fait des phrases de 3 mètres de long.
En gros, c'est, il a fait deux bouquins qui s'appellent « La peste sportive » et « La guerre des crampons ».
Oui, il en a fait d'autres. Hein. Ça fait un moment qu'il sévit, qu'on nous a bassiné avec dans nos études de STAPS. Et en gros, c'était le représentant de l'antisport.
Et deuxième événement plus sportif.
Ah, parce que je reçois un texto d'un dirigeant de l'EVB qui dit « Eh les gars, n'oubliez pas, Saint-Valentin, c'est la fête du vagin. »
Oh, ça c'est la classe. Ça c'est Café des Sports.
Bon, on va aller se laver le gland pour rester dans la continuité.
Allez, on va parler de sport de vrai. Par contre, du côté de Val-de-Roc...
Il y a tête de gland à côté, je sais pas, il se porte le visage.
Il y a le CSA qui vient de nous tomber dessus.
Ah non, non, c'était... Je m'attendais pas à ça.
Ah, j'ai reçu, moi, je...
Il y a le meeting. Ah bah ouais. Allez, on y revient, il y a le meeting indoor à Val-de-Roc. Donc c'est samedi de 15h à 19h30 avec, je l'ai dit tout à l'heure, mais un 60 mètres avec du beau monde, on va dire, au moins pour les Français, déjà le maître qui affrontera Vico, oui, et oui.
Vico, meilleure performance mondiale pour l'instant, voilà. Avec 6,53 quand même. Ça,
voilà,
ça
et le maître a fait 6,55 cette année, donc ça va être... après il y a un qu'on a souvent vu en équipe de France d'athlée, Ronald Pognon.
Il n'est pas sur ta starting list, Vico.
Non, il y est pas là, mais je sais pas de quand elle a été remise à jour. Jimmy Melfort, pareil, un habituel du relais français.
Non, Melfort, non.
Mais il est plus grand chose en ce moment.
C'est
il
juste
avance
le mari de
oui,
sa femme.
Oui, on en a rien à faire.
C'est qui sa femme?
Ben, ça s'appelait Skotnik avant.
La sauteuse en hauteur.
Allemande. Naturalisée française. Merci, président oui. Val-de-Roc.
Après, il y a le petit prodige de Val-de-Roc, Michael Zézé aussi qui sera aligné. Ça, c'est pour voir un gamin qui court vite. Et qui est tout petit et qui mouline dans tous les sens. Et puis voilà, il y aura des Danois, des Italiens, Di Gregorio qui fait partie quand même des références
mondiales.
Un bon
spécialiste mondiales. En salle, ouais.
Voilà. Et puis, vu que t'es là, on va vite fait voir le. Parce qu'il y a toujours un beau meeting de hauteur. On regrette de peut-être pas y voir notre athlète hébroïcien Mathieu Gomis.
C'est d'autant plus dommage qu'il a pas pu sauter il y a deux semaines la compétition nationale avait été annulée à cause du mauvais temps. Et c'est vrai qu'il n'aurait pas forcément dépareillé dans ce plateau, Mathieu. Saint-Jean, Diarra, Ciency, c'est bien, c'est les meilleurs Français, à part Michael Anani, qui est aux États-Unis à longueur de temps.
Il y a les meilleurs Français, plus Patrakov, donc c'est 2,30, un Russe, et puis un mec de l'Équateur, là, 2,25, moi je connais pas. Mais voilà.
C'est son nom, 2,25 ?
Ouais. Non. non, mais c'est quand même intéressant pour les gens qui voudraient voir ce que c'est. C'est impressionnant.
Vu la dimension de la salle, vous vous rendrez compte de ce que ça représente de sauter plus de 2 mètres en hauteur. Ça reste toujours quelque chose d'impressionnant. On rappelle que le record du monde, c'est quand même un mec qui est passé par-dessus un but de foot, hein, quand même. Enfin, ça parle même aux débiles qui jouent avec leurs pieds.
Allez, dernière info par rapport à l'agenda du sport local. Ça doit être samedi soir, le VB qui reçoit Terville.
Non, Venelle.
Aix-en-Provence, Venelle.
Aix-Venelle. C'est les heures habituelles.
18h30, revenir de bonne heure. Au Canada. Il y a des travaux sur le parking. Donc sinon, il faut vous garer au village de la Forêt. Ou comment ça s'appelle à côté?
Claude Vironvé,
voilà.
Voilà, donc pour les amateurs de volleyball. Match important pour l'Evreux Volleyball Capital. Donc n'hésitez pas à venir pour faire du bruit et encourager les joueuses locales qu'on a reçues régulièrement au Café des Sports. Raoul, un coup de cœur, un coup de gueule par rapport, excepté le rugby, on les a suffisamment chargés pour aujourd'hui.
Raoul, as-tu du cœur? Non, j'ai qu'une gueule.
Vas-y, exprime ça.
J'ai admiré depuis 2 semaines la grande clairvoyance de notre chère municipalité quant à la gestion de ces installations sportives, puisqu'ils nous ont annoncé tout de go que la future salle Omnisport ne serait pas construite à côté de l'ancienne, mais sur le site de l'ancienne, du fait d'un avis défavorable du commissaire enquêteur du PLU, encore des gros mots, et que donc il allait y avoir une période de carence de 2 ans, alors bon, 2 ça veut dire 3, pendant laquelle il n'y aura pas cette installation-là, mais il paraît que tout le monde a été consulté et que tout le monde est content, tout le monde va être logé, provisoirement ou pas, à droite et à gauche. Je demande à voir, j'y crois pas, en tout cas moi je connais au moins un club qui n'a pas été concerné par cette discussion et qui va se faire fourrer comme d'habitude. Et pas à Jean Fourré.
Il y aura peut-être de la place dans la Kinder Arena à Rouen au cas où.
Allez, Gonzalo.
Mais moi c'est un coup de cœur, je voudrais qu'on arrête d'embêter le mari de Jeannie Longo, il a le droit de prendre des produits pour aller sur la voie verte quand
non,
même.
Non, c'est parce qu'il a des problèmes osseux.
Ouais, non, mais
c'est bien connu que le PO règle les problèmes d'ostéoporose.
Il en achète pour 10 000 euros qu'il utilise en 15 jours. Bon,
Non, je me porte en faux. Il n'a pas acheté pour 10 000 euros. Il y a eu des cancelled custom. Il y a eu des achats abandonnés. Vous savez que sur Internet, c'est toujours dur de commander les choses. Ah, et donc, il n'a pas pu aller au bout de sa commande.
Damielski ?
Ouais, vite fait, Forger qui suscite la polémique. Je reprendrai l'équipe.fr qui disait que lui a évoqué la carrière d'un joueur de tennis durant une dizaine d'années. Les joueurs sont à l'étranger 8 mois par an. Ils gagnent donc l'essentiel de leurs revenus hors de France. Et il faut savoir que lorsqu'ils gagnent 1 million d'euros en France, ils laissent 500 000 aux impôts. On va leur faire un procès parce qu'ils n'ont envie de payer que 30% d'impôts aux États-Unis ou en Suisse. Alors qu'ils sont tout le temps à l'étranger. On montre certains sportifs du doigt comme s'ils étaient responsables de l'endettement, les erreurs et le gaspillage des gouvernements successifs ont beaucoup plus à voir dans les difficultés que nous traversons aujourd'hui. Voilà.
Et ils sont pas entraînés à l'INSEP, ils sont pas entraînés à Roland Garros, ces gamins-là.
Voilà. Ouais. Mais par contre, je le rejoins, qu'on traite tout le monde de la même façon. Les 17 millions de coûts annuels pour un ministre, que ce soit mis dans la balance aussi, peut-être, non? Voilà. 17 millions de coûts annuels pour un ministre. Comptez le nombre de ministres dans le gouvernement et comparez avec la dette de la Grèce.
Et en plus, ils ont des enfants parfois et des neveux, ceux qui ont des avantages.
Bon, allez, on ferme ce Café des Sports. Merci.
Et toi, t'as rien dit?
Ben non. Moi, je dis rien.
Non, tu dis.
Non,
vas-y, balance.
Allez, je balance.
Du bien ou du pas bien, mais balance.
Qu'est-ce que je vais balancer?
Tu changes de plateau? Tu passes du plateau à la vallée? De la vallée au plateau?
Non, je rien. Non, pas d'annonce de ce côté-ci. On attend. J'aimerais bien
rejouer. Il est pas loquace, le patron.
J'aimerais bien rejouer au rugby, pour de vrai. Mais, ou moi ou mes gamins, mais c'est pénible ce temps-là, en tout cas. Ce qui me permet de vous dire au revoir.
Et une mauvaise nouvelle, il pleut dehors. Une mauvaise nouvelle,
il pleut dehors.
On ferme. Voilà. Ce qu'il veut pas parler, le patron va le faire à sa place.
Salut Raoul.
Hey, bye bye.
Salut patron. Salut les amis. Hey, bye bye. Salut Raoul, merci d'être arrivé aussi vite que possible. Merci.
Toi, tu dégages.
Let's
essai de Christian de Médicis, c'est un génie.
Essai. Pas vrai, c'est pas vrai. Deux fois, ça, c'est pas vrai.
Chut. Les massues, il faut pacifier, elles pèsent pas moins de 500 grammes chacune.
Et but.
Et troisième
et but d'Emmanuel Petit, qui marque à la dernière minute.
Pédalage et défonçage sans les mamelles du Tour de France, alors il se défonce car la ligne est encore loin.